Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que les messagers du cheval vous retrouvent aujourd'hui pour une nouvelle chronique consacrée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval, bien sûr. Une émission proposée par Virginie Bauer.
Bonjour Michel, bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis sur CFM Rodez et CFM Villefranche de Rouergue. Alors, nous avons intitulé cette émission « Le cheval au Japon ».
Et oui Michel, car sais-tu que le cheval est roi au Japon ? Particulièrement les purs sang anglais de course. Mais car si les Japonais ont pour les courses de galop un engouement proche de celui que l'on peut avoir pour les rockstars de la musique, même rués après les guichets, et non pas vers la scène, mais cette fois vers le rond de présentation. Même banderole au nom des jockeys qu'ils adulent.
Tu as raison Virginie, mais au pays du soleil levant, les purs sang ne sont pas les seuls chevaux. Il existe en effet une longue tradition équestre et des races anciennes. C'est ce que nous vous proposons Virginie de découvrir dans cette première émission consacrée aux chevaux au Japon. Alors Virginie, sait-on quand les chevaux sont arrivés dans l'archipel, car ils n'étaient pas, je crois, une race endémique, effectivement.
Oui Michel, en effet, on a longtemps cru que les chevaux ont été importés au Japon au 5e siècle. Néanmoins, cela a été démenti par des recherches archéologiques récentes. Celles-ci ont en effet mis à jour des os fossilisés. Donc on sait on a de fortes raisons de croire qu'au cours du Pliocène, c'est-à-dire il y a 5 millions d'années, des chevaux mandchous ou des steppes du nord de la Chine ont émigré au Japon. C'était des chevaux de petite taille parce que peut-être ils vivaient sur une île.
Alors a-t-on une idée de la manière dont ils sont arrivés au Japon ? Est-ce que c'est de l'importation ou qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, les chevaux n'étant pas de grands nageurs, on pense qu'ils ont profité d'une période de basses eaux à la fin du Pliocène, quand la mer avait baissé de 130 mètres. Ils seraient ainsi venus du nord-est de la Chine, en passant par la Corée, ou alors du sud-est de la Russie, en passant par l'île de Sakhalin, car on sait que des chevaux de petite taille vivent dans ces régions.
Petit rappel pour nos auditeurs, l'île de Sakhalin est une île russe située dans le nord-ouest de l'océan Pacifique, au large de la Sibérie. Son extrémité sud est séparée par l'île de Hokkaido, que tout le monde le connaît bien sûr, de nom en tout cas, et donc séparée par un détroit. Et cette dernière île est la plus proche au nord de l'archipel du Japon. Alors nous repartons dans le temps avec toi Virginie, que sait-on de ces premiers chevaux japonais ?
En explorant des tertres funéraires, on a trouvé des restes de petits chevaux qui faisaient une taille d'environ 1,20 m à 1,10 m au garrot. Puis des chevaux semblables au Tokarauma, dont nous allons parler, et qui a été élevé au Japon jusqu'à l'époque Meiji, c'est-à-dire de 1868 à 1912, et mesuré de 1,30 m à 1,50 m, ont été également recensés. Donc on pense que la domestication s'est faite vraiment de manière locale. Les chevaux japonais domestiqués présentent en effet des mêmes similitudes que celles des chevaux mongols domestiqués et ainsi que celles du cheval de Przewalski. Néanmoins, les délégations chinoises en visite au Japon ne virent pas de chevaux. Soit ceux-ci avaient disparu avant d'être réintroduits à l'ère Kofun, soit ils existaient mais en petit nombre et n'étaient guère utilisés dans les provinces qui avaient été visitées par les délégations chinoises. Probablement, avant l'introduction d'autres chevaux, les chevaux japonais étaient considérés comme du gibier et non domestiqués, ce qui expliquerait que les Chinois ne les aient pas vus. Et ce n'est que vers la fin de l'ère Kofun qu'ils ont été utilisés à des fins militaires. Les textes anciens montrent que les Japonais, ne savaient pas s'occuper de chevaux quand ils leur étaient offerts.
Alors l'ère Kofun est la plus ancienne époque de l'histoire enregistrée au Japon, qui s'étend du 3e au 6e siècle de notre ère. C'est une période importante pour les chevaux, Virginie.
Oui Michel, c'est au 5e siècle que l'on commence à élever des chevaux et que se développent les méthodes de fabrication des harnais. Est indispensable quand on veut monter à cheval. Donc, on voit apparaître des selles de style chinois. Et selon les archéologues qui se sont intéressés à la question, la technique de monte et les technologies menant à la fabrication du fer et des armes, qui vont de pair avec la monte militaire des chevaux, ont été introduites par les Coréens vivant au Japon.
Alors, le rôle des Coréens est donc, en fait, prédominant, Virginie, dans l'histoire des chevaux du Japon.
On peut le dire, Michel, car les analyses qui ont permis de reconstruire les relations génétiques entre les différentes races de chevaux japonais ainsi que leur distribution géographique concluent que les chevaux japonais descendent des chevaux mongols venus de la péninsule de Corée. Et la faible variété génétique des chevaux indigènes, donc propres au Japon, indique qu'ils descendent de cette population originale qui s'est répandue dans tout l'archipel.
Alors nous allons peut-être faire une petite coupure musicale. Hong Kong Garden, Susie and the Banshees. Vous êtes sur CFM Radio et vous écoutez Les Messagers du Cheval. Alors continuons notre émission, Virginie, et cette question, distingue-t-on des races différentes aujourd'hui? Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça s'est transformé d'une certaine façon?
Alors oui, par rapport à cette population originale, on distingue aujourd'hui 8 races proprement japonaises. Alors je vais commencer par vous présenter le Kiso Uma. Kiso, K-I-S-O, hein, Uma, U-M-A. Il faut savoir que Uma, en japonais, veut dire cheval. Quant à Kiso, c'est le nom d'un fleuve. Et le Kiso Uma est probablement la race de chevaux la plus ancienne. C'est un petit cheval qui était utilisé et que l'on trouve dans la région de Nagano et Gifu.
Donc au nord du Japon.
Voilà, il était essentiellement utilisé par l'armée. Aujourd'hui, c'est un cheval de selle avant toute autre chose. Alors, deuxième race dont je vais vous parler, c'est le Noma, N-O-M-A. Lui descend des chevaux mongols introduits au XVIIe siècle. C'est le plus petit des chevaux japonais. C'est un cheval très gentil et fort, qui était utilisé sous la selle ou comme cheval de trait ou de bât. Aujourd'hui, c'est la monture préférée des enfants japonais. Ce cheval a été très populaire jusqu'à ce que la guerre russo-japonaise de 1904, au cours de laquelle l'armée japonaise s'est laissée surprendre par les grands chevaux de leurs ennemis. En conséquence, un nouveau programme d'élevage a introduit des races étrangères, entraînant la quasi-extinction des chevaux japonais. L'Agence japonaise des affaires équines interdisant même l'élevage de chevaux de petite taille. Donc c'est vraiment pourquoi aujourd'hui on a très peu de chevaux d'origine japonaise à cause de ce problème de petite taille. Néanmoins, grâce à une poignée de fermiers qui a continué à garder illégalement des chevaux japonais pour travailler leur terre, c'est donc grâce à eux que nous avons toujours aujourd'hui des poneys Numa. Mais il faut savoir, Michel, qu'en 2008, il n'y en avait plus que 84 d'origine pure.
Oh là là, oui, on est près de l'extinction, là. Hein. Comme nous l'avons vu au cours d'autres émissions, sans l'aide d'organisations qui se sont battues pour la survie et la détermination de certains hommes, ces races auraient disparu, quoi. Et là, on le voit souvent dans des émissions précédentes, où ce sont des particuliers qui se sont groupés pour, effectivement, empêcher
la disparition. Oui.
On avait fait, par exemple...
Par Papo des ânes, entre autres.
Voilà, c'est ça, ou les chevaux de Skiros, etc. Enfin bon, bref, c'est vraiment des gens qui refusent et qui font ce qu'il faut pour...
Et oui, Michel, d'un côté, l'homme détruit, de l'autre, il préserve.
Oui.
Mais malheureusement, l'équilibre n'est pas toujours en faveur des chevaux locaux, comme nous allons le voir avec d'autres races. Mais ce n'est pas le cas de l'Hokkaido Washu, connu également sous son nom de Dosanko. Alors, ce cheval aurait été introduit dans la province d'Hokkaido par des pêcheurs venus de l'île de Honshu ou Edo, c'est là où se trouve Tokyo. Et ceci au cours de l'ère Edo, c'est-à-dire entre 1600 et 1867. Alors, le Dosanko était utilisé pour le transport. Et lorsque les pêcheurs rentraient chez eux l'automne venu, ils laissaient là les chevaux, à eux de survivre, notamment à un temps rigoureux, sur une terre pauvre en végétation et couverte de neige. Je ne te surprendrai pas, Michel, en te disant que c'est donc un cheval exceptionnellement endurant aujourd'hui. De toutes les races anciennes, c'est elle qui compte le plus de sujets, puisqu'on dénombre environ 2000 chevaux. Il est toujours utilisé pour le transport, notamment dans les montagnes qui ne sont pas accessibles en camion. Et certains éleveurs choisissent de les faire hiverner dans ces mêmes montagnes afin de maintenir l'endurance de la race.
Absolument, oui. Et c'est vrai que ce cheval de... Enfin, Hokkaido, il faut savoir, on pense toujours que le Japon est une terre chaude. Il fait des hivers absolument rigoureux, quoi. Voilà. Alors, mais ces chevaux, c'est très joli, mais comment se nourrissent-ils, hein?
Alors, ils mangent des pousses de bambou, Michel. Et il faut rappeler, pour l'occasion, que le bambou n'est pas un arbre, mais une herbe. Et c'est une des herbes les plus primitives. Donc, ils se nourrissent de bambou, parcourant les montagnes à sa recherche jusqu'au printemps, lorsqu'ils redescendent tout seuls, sans assistance, vers les fermes. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent à échapper aux ours qui sortent alors de l'hibernation et qui s'en prennent aux poulains. Alors, autre race japonaise, le Misaki. Alors, celui-ci a la taille d'un poney, mais avec toutes les caractéristiques et proportions d'un cheval. Et il a été identifié pour la première fois en 1697. C'était donc un cheval sauvage qui a été capturé et élevé par la famille Akizuki. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on l'a même qualifié de trésor naturel national. Alors aujourd'hui, le Misaki est retourné à l'état sauvage et on le trouve tout particulièrement dans la région du Cap Toy, au bord de l'océan Pacifique, où sa présence attire les touristes.
Alors j'imagine qu'un écotourisme, justement, qui nous rappelle celui des chevaux de l'île de Sable au large du Canada, dont nous avions fait une émission, et dont, effectivement, on retrouve un peu cette même problématique en quelque sorte.
Oui, c'est tout à fait vrai, Michel. Et c'est un haut lieu du tourisme, le Cap Toy. Alors maintenant, laisse-moi te présenter les quatre dernières races japonaises, c'est-à-dire le Miyako, le Yonaguni, le Taisho et le Tokara. Alors le Miyako porte le nom de l'île où il a grandi dans la province d'Okinawa, qui est un haut lieu d'élevage des chevaux. Au XIe siècle, on en comptait 10 000. Mais au cours des siècles suivants et du développement de la motorisation, sa population n'a cessé de décliner au point où il n'en restait plus que 7 en 1983. Donc vraiment un cheval en quasi-extinction.
Oui, c'est ça.
Malgré beaucoup d'efforts pour préserver cette race ancienne, on n'en comptait que 19 en 2000 ans. Donc on ne peut qu'espérer qu'ils arrivent à maintenir ces chevaux en existence. Des chevaux qui sont montés ou qui sont utilisés pour des travaux légers en agriculture.
D'accord. Et si tu nous disais quelques mots sur le Yonaguni. Voilà.
Le Yonaguni, il est originaire du sud-ouest du Japon, dans une île qui porte le nom de Yonaguni. En 1939, lorsqu'un programme d'amélioration des races locales a été mis en place pour fournir des chevaux de guerre plus grands, l'isolement du Yonaguni sur son île lui a permis de préserver ses caractéristiques. Donc voilà un cheval qui a échappé au programme d'élevage japonais. Néanmoins, la mécanisation de l'agriculture a entraîné son déclin, puisqu'il n'en reste plus que 200 aujourd'hui.
Oui, donc là encore très proche de l'extinction, en voilà. Fait. Si les Japonais n'y prennent pas soin, il n'y en aura plus. En est-il de même pour les deux dernières races, alors?
Et c'est hélas le cas, Michel. Hein. Voilà. Et notamment celui du Taisho, originaire de l'île Tsud, depuis le 8e siècle. On voit combien ces chevaux sont anciens. Alors, de 4000 chevaux en 1920, il ne reste plus que 70 chevaux. Ce sont des chevaux au bon caractère, très dociles, qui sont souvent d'ailleurs montés par les femmes et les enfants des fermiers qui les élèvent. Ils sont également très endurants et survivent avec peu de nourriture l'hiver. Et enfin, la dernière race, et qui est l'une des plus anciennes, le Tokara, est élevé sur les îles du même nom. C'est un cheval très résistant à la chaleur, qui a été utilisé pour les travaux agricoles, notamment pour le pressage des cannes à sucre. Ce poney a été découvert en 1952 par le professeur Shigeyuki Hayashida. Alors, il en avait dénombré 43. Et aujourd'hui, on en compte 107.
Ça, c'est...
Là, il y a... Oui. Ça a doublé. Et on peut donc avoir un petit peu d'espoir, au moins, pour cette dernière race du Tokara.
Oui. Alors, comme ce sujet est vaste, Virginie, nous ne l'épuiserons pas aujourd'hui. Sans doute, nous continuerons notre exploration du cheval du Japon dans une prochaine émission.
Tout à fait. Dans nos prochaines émissions, nous parlerons de l'utilisation du cheval, notamment en archerie et dans le monde des courses hippiques.
Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Virginie, n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis, il y a un cheval dans les studios de CFM Radio 107.9. L'animal est également présent sur CFM Villefranche-du-Rouer 90.2 les mercredis et les samedis. Eh bien, une fois encore, merci beaucoup Virginie pour ce très bel exposé sur ces chevaux japonais dont on voit en plus l'énorme... Il y a plein de races différentes, quoi. C'est pas le cheval, ce sont plein de races et qui, surtout, ce qui est formidable, ont perduré depuis des siècles et des siècles, quoi. Malgré toutes les vicissitudes qui est arrivée au Japon. Et ça, c'est très japonais. On garde ce qui marche et ce qui est beau et ce qui est bien. Voilà. Eh bien, rendez-vous pris pour une prochaine émission sur les chevaux, bien évidemment, avec Virginie Bauer. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous.